Somnifère, le podcast.
Le divorce est la soupape de sûreté de la chaudière conjugale, écrit Adrien de Courcelles. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 6 octobre, et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de deux époux qui décident de mettre fin à leur mariage et de trouver un partenaire qui leur correspond mieux. Le divorce est prononcé équitablement et sans drame. Mais c'est bien connu, on ne se rend souvent compte de l'importance des choses qu'après les avoir perdues. Et cette séparation n'est peut-être que la marque d'un nouveau départ. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation.
La séance de relaxation.
Commencez par prendre une grande inspiration en comptant mentalement jusqu'à 4. Et expirez en comptant mentalement jusqu'à 4 également. À nouveau, une grande inspiration en comptant jusqu'à 4. Et expirez en comptant jusqu'à 4 également. Prenez à présent une respiration calme et naturelle. Si vous êtes allongé sur le dos, vous pouvez, si vous le souhaitez, poser vos mains sur votre ventre. Quand vous êtes prêt, je vais vous demander de visualiser votre corps comme si vous vous trouviez au plafond. Gardez les yeux fermés et tentez de visualiser le plus fidèlement possible la position dans laquelle vous vous trouvez. La manière dont vous êtes allongé, vos cheveux sur l'oreiller, la couleur de vos draps, de votre thé, ce qui se trouve sur votre table de nuit. Tentez de visualiser le décor, vous au milieu, de la manière la plus fidèle possible, comme pour prendre une photographie mentale de la pièce. Je vous laisse quelques instants pour le faire. À présent, imaginez qu'avec un gros feutre violet, vous dessinez les contours de votre corps sur le lit. C'est un feutre assez spécial, puisqu'à mesure que vous dessinez, les parties de votre corps concernées semblent s'envelopper d'une douce quiétude. Vous commencez en posant la pointe du feutre au niveau de votre hanche droite et vous redescendez lentement le long de votre jambe. En faisant bien attention à être précis et appliqué, puis au niveau du pied et des doigts de pied, dont vous faites le contour un à un. Puis en remontant le long de votre jambe, avant de redescendre une nouvelle fois. Et de faire le contour de votre pied et de vos doigts de pied, un à un, à nouveau. À présent, vous remontez lentement, avec précaution, en vous appliquant jusqu'à vos aisselles. Puis le contour de votre bras. Puis de vos doigts, un à un. Avant de remonter lentement et de dessiner la courbe de votre épaule. De votre cou. Puis de votre tête. Puis vous redescendez lentement et arrivez à nouveau au niveau de votre cou avant de redescendre délicatement la courbe de votre épaule. Puis de votre bras. Et enfin, chacun de vos doigts. Vous remontez lentement, comme gracieusement, jusqu'aux aisselles. Et enfin, vous redescendez avec soin jusqu'à votre point de départ. Prenez un moment pour sentir votre corps vibrer dans cette douce quiétude et notez comme c'est agréable et réconfortant. Portez simplement votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme et détendu.
L'histoire du soir.
Léon Blois, le téléphone de Calypso. Madame Presque ne pouvait se consoler du départ de Monsieur Vertige. Depuis 6 mois, que prononçant leur divorce, un arrêt profondément équitable avait mis un terme à leur conjugale tribulation, cette femme exquise, peu à peu, s'était laissée choir dans l'hypocondrie. Aux premiers élans d'une joie bien naturelle avaient promptement succédé les transes de la solitude, les alarmes de l'insomnie, le gril de la continence et enfin les regrets amers. Ce n'était pourtant pas que M. Vertige fût un homme précisément adorable. Adieu non. Il sentait le bouc, avait un caractère diabolique et ne possédait pas un globule d'enthousiasme pour sa femme. Mais on trouvait en lui ce ragoût, cette espèce de je ne sais quoi, qui fait qu'on revient toujours à ces animaux. C'est inexplicable sans doute, mais trop certain. Elle pouvait se rendre cette justice d'avoir fait généreusement avant leur divorce tout ce qu'une bonne femme peut faire pour se dégoûter de son mari. Elle s'était crue même tout à fait sûre de réussir. Elle avait eu plusieurs amants d'une distinction peu ordinaire. Le premier surtout, un employé supérieur de l'administration des catacombes, qui l'avait lâché malheureusement, était, on pouvait le dire sans crainte, le type idéal. Eh bien, ces tentatives heureuses et le divorce favorable qui en fut la conséquence n'avaient pu l'opérer complètement de son mari. Elle pensait toujours à ce vilain homme et ne parvenait pas à s'en empêcher. Elle n'allait pas sans doute jusqu'à déplorer de n'être plus Madame Vertige, mais il lui devenait chaque jour plus clair que l'époux banni avait été le condiment indispensable de ses joies. En d'autres termes, l'amour était sans saveur depuis qu'elle n'en cornait plus un tenancier légitime. Il faudrait être le dernier des hommes pour ignorer ou ne pas sentir à quel point le divorce élève les cœurs. Mais on est en même temps forcé de reconnaître que ce n'est pas exactement une institution de crédit, et Madame Presque était, suivant son expression familière, gênée dans les entournures. L'argent avait disparu à la même heure que M. Vertige. Il avait disparu comme dans un gouffre, et cette circonstance devait certainement, aux yeux du penseur, être pour quelque chose dans l'actuelle mélancolie de l'abandonné. Ses expéditions amoureuses ne lui avaient pas été profitables. Il s'en fallait. Dans sa crainte vraiment puérile de paraître se prostituer, elle avait expérimenté l'admirable désinvolture avec laquelle, messieurs les hommes, souffrent qu'on les allège du poids importun des additions. Et ce n'était pas les inconstants ou les ingrats régalés par elle autrefois qui s'empresseraient aujourd'hui de la secourir. On ne se bousculait pas dans l'escalier de l'hôtel meublé de 10e ordre qui avait remplacé l'appartement confortable de naguère, et la question de subsistance quotidienne commençait à pendre. Au plus fort de cette anxiété, une idée rafraîchissante passa sur elle comme une brise de parfum sur les lieux arides. Elle venait de se rappeler l'appareil téléphonique possédé par M. Vertige. Elle s'en était vengée en faisant servir à diverses fourberies cet irresponsable véhicule des turpitudes ou des sottises contemporaines. Un assez grand nombre de fois, M. Vertige avait reçu des rendez-vous dérisoires qui le forçaient à s'absenter pendant des heures dont profitait audacieusement sa femme. Au bureau central, on devait le croire surchargé d'affaires. Les blagues avait même été si loin qu'on pouvait craindre désormais un parti pris de ne plus répondre. Pleine d'un dessein mystérieux, Madame Presque s'élança donc à la plus prochaine cabine et demanda communication. J'ouvre ici une parenthèse, complètement inutile d'ailleurs, pour déclarer que le téléphone est une de mes haines. Je prétends qu'il est immoral de se parler de si loin et que l'instrument sudit est une mécanique infernale. Il est bien entendu que je ne puis alléguer aucune preuve de l'origine ténébreuse de cette allonge-voix, et que je suis incapable de documenter mon affirmation. Mais j'en appelle aux gens de bonne foi et d'esprit ferme qui en ont usé. Le bruissement de larves qui précède l'entretien n'est-il pas comme un avertissement qu'on va pénétrer dans quelques confins réservés où la terreur peut être surabonde, si on savait? Et l'horrible déformation des sons humains qu'on croirait étirés sous un laminoir, qui ont l'air de n'arriver jusqu'à l'oreille qu'à force de se distendre monstrueusement, n'est-elle pas aussi quelque chose d'un peu panique? Il y a peu de jours, un vieux garçon de bain scientifique appointé spécialement pour le massage des découvertes utiles au hammam d'un puissant journal célébrait la gloire d'une usine anglaise qui est en train d'exterminer l'écriture. Il paraît qu'une lumineuse machine va destituer la main des hommes qui n'auront plus du tout besoin d'écrire. Et le fantoche invitait naturellement plusieurs peuples à se réjouir d'un tel progrès. J'imagine que le téléphone est un attentat plus grave, puisqu'il avilit la parole même. Allô ? À qui ai-je l'honneur de parler ? À moi, Charlotte, votre ancienne femme. Très bien, chère madame, comment vous portez-vous ? Pas mal, je vous remercie. Et vous-même ? Oh, moi, je prends du ventre. Que puis-je faire pour vous être agréable, s'il vous plaît ? M'accorder un rendez-vous le plus tôt possible pour une affaire tout à fait pressée. Pardon, madame, j'ai l'honneur de vous rappeler que nous ne devions plus nous voir. Eh bien, mon cher Ferdinand, mon petit nanan, il faut changer ça. À quoi servirait d'être divorcé si on ne devait plus se voir ? Que voulez-vous dire ? Expliquez-vous, s'il vous plaît, répondit l'ex-époux dont l'extrémité de la voix grondeuse parut sauteler sur la plaque où Madame Presque fit retentir un baiser que l'appareil transmit comme un dard. Soyez donc attentif, gros canard, et faites un effort pour me bien entendre. Quand nous nous sommes mariés, nous avons agi comme des enfants et nous avons failli manquer toute notre existence, parce que nous n'avons rien compris, mais rien de rien à ce que la nature exigeait de nous. L'amour libre, voilà ce qu'il nous fallait. Le mariage est fait pour les êtres inférieurs, et nous étions appelés à une vie plus haute. Nous aurions été parfaitement heureux si nous avions eu la sagesse de ne pas nous épouser, de ne pas habiter bêtement sous le même toit et de nous voir gentiment de loin en loin comme deux petits cochons qui s'adorent. Pourquoi ne pas réaliser aujourd'hui ce beau rêve ? Croyez-vous donc qu'il soit trop tard ? Écoutez-moi, polisson d'homme. Et voyez si on vous aime. Je tromperai tout le monde avec toi, mon Ferdinand. Il est probable que Madame Presque savait à l'avance dans quel fumier d'âme allait tomber cette promesse, car les deux tronçons du serpent de l'adultère, tranchés par le divorce et recollés par le plus sordide concubinage, se réintégrèrent.
Bonne nuit. Bonne nuit.